LSD, la série documentaire. Un podcast France Culture.
Dites-moi quel est le fond qui vous intéresse.
Bah, c'est du 33W.
Normalement, c'est rentré. Si la dérogation est accordée.
Ah, bah oui, vous pouvez commander.
Ah, oui, je vais faire un test.
Vous pouvez commander vous-même.
On est aux archives de Paris qui condensent deux types de documents, ceux des services municipaux et des services départementaux, dont les archives de la justice. C'est le tribunal correctionnel que je cherche. Et voilà. Là-dedans, on a tout ce qui a été jugé par le tribunal de Paris. Vous voyez, c'est énorme, hein, c'est très gros, c'est lourd. Et maintenant, le but, c'est de trouver des outrages publics à la pudeur. On passe notre temps à tourner des pages.
Ah, outrage public à la pudeur.
Non, c'est un exhibitionniste notoire. C'est une longue affaire. Hein. Donc ça, c'est un outrage public à la pudeur simple. On continue ? Régis Schlagdenhoffen, enseignant-chercheur, donc sociologue à l'EHESS, l'École des hautes études en sciences sociales. Je fais une enquête collective, ici, aux archives, sur les outrages publics à la pudeur comme délit sans victime. Donc c'est ça la question. Ah, celui-là, il est intéressant. Donc là, le 2 janvier 1946, nous avons Léonard F, âgé de 51 ans, né en 1894 de profession boulanger, marié, père de 2 enfants et résident à Saint-Maur-des-Fossés en région parisienne, ainsi que Jean T, né en 1917, donc âgé de 28 ans, qui est manœuvre, lui aussi marié, mais sans enfant, résident à Alfortville, comparé pour outrage public à la pudeur. Le délit a été commis le 28 juin 1944 et tous deux sont poursuivis pour avoir, dans les urinoirs des Champs-Élysées, commis un outrage public à la pudeur en exhibant leur partie sexuelle et en se masturbant réciproquement. Alors le premier est condamné à une peine de 2 mois et 2000 francs d'amende et le deuxième lui aussi à 2 mois et 2000 francs d'amende.
BD, réinventer le monde. Un documentaire de Camille Desombres réalisé par Gilles Blanchard. Épisode 2. Les PD et la police. Suite à la Révolution française, la loi anti-sodomie, ayant conduit de nombreux sodomites au bûcher jusqu'en 1750, est révoquée en 1791. Et si, en 1857, le médecin légiste Ambroise Tardieu fabrique dans ses écrits le pédéraste comme un criminel potentiel, le droit pénal ne fera plus mention de sujets liés à l'homosexualité jusqu'en 1942. Contrairement à l'Allemagne ou l'Angleterre qui condamnent explicitement les relations sexuelles entre hommes, la loi française ne réprimera pas l'homosexualité en tant que telle, mais au nom de la pudeur puis de la protection de la jeunesse. En 1942, les lois du régime de Vichy, conservées après la libération, introduisent une discrimination d'âge dans l'interdiction de relations sexuelles avec des mineurs. 15 ans pour les relations hétérosexuelles, contre 21 ans pour celles homosexuelles. En 1949, un arrêté du préfet de Paris interdit la danse entre hommes en public. Puis, en 1960, l'amendement Mirguet établit l'homosexualité comme fléau social au même titre que l'alcoolisme ou la tuberculose, ajoutant la circonstance aggravante d'homosexualité en matière d'outrage à la pudeur et doublant les peines. Mais bien avant les différentes inscriptions dans la loi, la police française a une longue histoire de surveillance et de répression de l'homosexualité masculine. Documentée par Romain Jaouen, doctorant au Centre d'Histoire de Sciences Po, dans son livre « L'inspecteur et l'inverti ».
Pour le travail policier en général, les policiers ne se contentent pas d'appliquer à la lettre le texte du code pénal. S'ils faisaient que ça, en fait, ils ne feraient pas la plupart des activités qu'ils font par ailleurs, même dans le cadre de travail judiciaire. Donc en fait, dans le cadre de l'homosexualité, il y a plusieurs choses à signaler. D'abord, avant 1942, donc avant qu'il y ait une quelconque discrimination particulière à l'égard de l'homosexualité dans le code pénal, la police a pu entreprendre une surveillance de l'homosexualité que le droit ne lui prescrivait pas. Donc en fait, la police va exercer une surveillance du milieu homosexuel, du monde homosexuel ou des personnes dont elle soupçonne qu'elles pourraient être homosexuelles, au-delà de la suspicion claire et précise de sexualité avec des mineurs à leur encontre ou bien de comportements répréhensibles, quels qu'ils soient.
Pourquoi est-ce que la police ressent le besoin d'aller surveiller ces milieux-là ? Qu'est-ce qui la passionne dans les pratiques homosexuelles masculines ?
Moi, je pense qu'on ne peut pas tout à fait exclure une part de, voilà, de voyeurisme, de volonté de savoir, comme on pourrait dire en reprenant les mots de Michel Foucault, au sujet de populations déviantes, curieuses, marginales, marginales sur le plan de la sexualité, pas forcément sur le plan social. Tout ça, ça l'intéresse, en fait. Il y a aussi d'autres intérêts pour la police, et particulièrement pour la police mondaine, qui est celle qui s'occupe le plus de sexualité dans le cas de Paris et aussi dans d'autres communes. C'est de développer un genre de savoir spécialisé sur différents publics cibles qui peuvent être d'intérêt pour la police. Et donc, le fait d'accumuler des informations sur la sexualité, c'est une manière de développer une connaissance et donc, par extension, un certain contrôle de milieux particuliers, des milieux liés au monde de la nuit. Par exemple, la police fait une surveillance active, non seulement de l'activité, mais aussi de la vie personnelle, des personnes qui travaillent dans des bars, des cabarets travestis, pour avoir un contrôle fort sur les populations qui font ces activités. La police, quand elle obtient une information, quand elle fait un diagnostic d'homosexualité sur quelqu'un, quand elle arrive à établir que telle personne qu'on a surveillée est homosexuelle, elle peut aussi potentiellement, et ça c'est très difficile de le voir dans les archives, s'en servir à l'encontre de cette personne dans des situations particulières. Notamment vis-à-vis de personnalités de premier ordre, que ce soit des juristes, que ce soit des magistrats, que ce soit des avocats, ou que ce soit du personnel politique, même si on trouve peu de dossiers dans les archives conservées qui correspondent à ces personnalités-là.
Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce qu'est le groupe de contrôle des homosexuels ?
Alors, le groupe de contrôle des homosexuels, c'est un terme qu'on a beaucoup utilisé depuis longtemps pour parler des agents de police qui étaient spécialisés dans la surveillance de l'homosexualité. C'est un groupe de police qui était très décrié dans les années 70 par les mouvements homosexuels, qui a été ensuite aboli ultérieurement. Mais en réalité, l'idée qu'il y ait des agents de police qui soient spécialisés sur la question de la surveillance de l'homosexualité à Paris, ça date, d'après ce que les historiens ont trouvé, au moins du 18e siècle, de la deuxième moitié du 18e siècle. À l'époque, ça consiste essentiellement en la surveillance de certains espaces publics ou ouverts dans lesquels les homosexuels se rencontrent, par exemple les Champs-Élysées, et aussi, de plus en plus, en la surveillance de certains cabarets, marchands de vin, dans lesquels on sait que les homosexuels, ce qu'on appelle à l'époque plutôt les pédérastes, qu'on a appelé avant les sodomites, se rencontrent. Et donc, à travers le 18e et le 19e siècle, en fait, il va y avoir souvent une petite équipe au sein d'un service ou d'un autre qui va avoir la fonction de surveiller l'homosexualité dans l'espace public et aussi les lieux de rencontre homosexuels. Et ce groupe-là, on va le retrouver notamment dans ce qui va s'appeler la Brigade des Mœurs ou la Brigade mondaine à différentes époques. Et lorsque la Brigade des Mœurs est recréée en 1914, elle va à nouveau être équipée de la mission de surveillance de la pédérastie. C'est ainsi que c'est comme ça que c'est écrit dans son texte fondateur. Et il va y avoir du coup une équipe particulière en son sein qui va s'occuper de cette surveillance-là.
En 1937, il y a des lettres qui émanent comme quoi les abords des Champs-Élysées sont des lieux de débauche homosexuelle et que par conséquent, faut que la police agisse et hop, il va y avoir des opérations ciblées d'arrestation en masse.
Régis Lagdenhoffen.
Donc, dans des lieux connus. Donc, on a à Paris le Jardin des Tuileries, Bois de Boulogne, Bois de Vincennes. Là, on peut faire du chiffre facilement. Hop, on a des policiers qui se mettent à toutes les entrées, tout particulièrement des Tuileries. Et donc on nasse et on arrête tout le monde. Ou sinon ça pouvait être dans des boîtes, c'est la fameuse histoire du Manhattan contée par Michel Chomara, ou d'autres histoires dans toutes sortes de clubs et bars. Il y avait une petite lumière rouge et donc quand la police arrivait, hop, la lumière rouge et tout le monde faisait en sorte de ne pas pouvoir être susceptible d'avoir commis un délit.
Surveillance d'un bain de vapeur du 16e arrondissement, dans le quartier de Chaillot, à proximité de l'avenue de la Grande Armée, 31 janvier 1959. De 16h30 à 18h30, la clientèle est assez nombreuse. 20 à 25 personnes sont disséminées dans les diverses salles de vapeur, de sudation sèche et de repos. Jusqu'à 18h30, aucun acte délictueux n'a pu être remarqué. Pourtant, la majorité de cette clientèle était sans conteste composée de vicieux en quête d'aventure. À partir de 18h45, le nombre de baigneurs diminua de moitié. Et c'est à ce moment que certains actes contre nature purent être remarqués. Dans la salle de vapeur, et en présence de 4 clients, un individu pratiqua la masturbation, accompagné de caresses sur le corps, à un partenaire qui ne manifesta aucune opposition. Dans la salle de sudation, ce même individu qui venait de quitter la salle de vapeur s'approcha d'un autre baigneur, lui saisit la verge, en érection, et lui pratiqua le coït buccal. Son partenaire se prêtant de bonne grâce et avec plaisir à cet acte contre nature. En conséquence, il serait souhaitable que de nouvelles surveillances soient exercées dans cet établissement afin d'interpeller les délinquants éventuels, car on peut affirmer, sans risque d'erreur, que parmi la clientèle de cet établissement se glissent certains invertis en quête d'aventure.
Dans les lieux de rencontres publiques, je pense notamment aux Vespasiennes, aux les parcs, les pissotières, est-ce que les policiers vont parfois inciter au délit ?
Oui, c'est tout à fait le cas. C'est arrivé effectivement. Alors, les techniques de surveillance de la police consistaient à se rendre dans les espaces publics en civil et à se faire passer pour de simples voyeurs, par exemple, pour réussir à observer des actes sexuels entre hommes, par exemple dans un urinoir. Donc pour ça, il fallait que l'inspecteur soit debout devant un urinoir dans l'espace fermé avec tout le monde et qu'il puisse regarder par-dessus sa stalle vers la droite, vers la gauche pour voir les petits manèges de drague, de rapprochement qui avaient lieu jusqu'à obtenir de voir des personnes qui se masturbent ou autres à côté de lui. Et en fait, ce faisant, tout d'abord, le policier se met en situation de voir une infraction de manière presque artificielle, c'est-à-dire qu'il crée la situation d'observation qu'il va lui permettre d'obtenir une arrestation. Et par ailleurs, en fait, dans leur manège, les policiers s'exposent parfois eux-mêmes à être pris à partie par des homosexuels qui souhaiteraient les draguer. Et il arrive que certains policiers aillent jusqu'à laisser des personnes tenter un attouchement envers eux avant de procéder à une arrestation. Et donc là, en fait, ils jouent un jeu un peu trouble, puisque d'un côté, certes, il y a infraction qui a lieu devant leurs yeux ou avec eux, mais en réalité, ils ont aussi, par leur présence, par leur regard, par leur posture, sans doute suffisamment rassuré la personne avec elle, qui est avec eux, pour obtenir que ces gestes aient lieu. Donc il y a un jeu, effectivement, qui relève en partie de la provocation à l'infraction dans ce que fait la police.
février 1960. Il est nettement visible que nous avons été signalés. Malgré une surveillance très dure, il n'a pas été possible de déceler la commission d'un acte délictueux. Il semble bien que le fils du propriétaire, qui occupe les fonctions de garçon, soit à l'origine de la méfiance exceptionnelle manifestée à notre égard par les baigneurs. Ce dernier, d'ailleurs, a des allures caractéristiques d'un inverti. En conclusion, il serait souhaitable qu'une surveillance soit effectuée dans cet établissement par des officiers de police inconnus du personnel des propriétaires. Car sans être affirmatif, il est presque certain que ces derniers, en vue de conserver leur clientèle, favorisent leur quiétude dans leur bain.
Est-ce qu'on peut dire que la relation quand même entre le corps policier et le corps pédéraste, elle a sa part de passion à certains endroits ?
Ben oui, je me pose parfois la question aussi, je me dis mais finalement, mais qu'est-ce qu'ils font là dans les urinoirs ? Quel peut être le désir ou la volonté de faire ce job-là et d'arriver jusqu'à cet endroit-là ?
Romain Jaouen.
Alors bon, par ailleurs, il faut aussi savoir que c'est pas forcément de bonne grâce qu'ils y vont, hein. Ils sont aussi dans un service de police, donc il y a une part de contrainte quand même dans l'exercice qui fait qu'on peut pas non plus dire qu'ils y aillent le nez au vent et par plaisir, mais on peut pas exclure effectivement que pour une partie d'entre eux, il y a eu un intérêt, une fascination pour le job et pour le fait de scruter, zioter, entendre, que ce soit à travers une porte de chambre d'hôtel, que ce soit dans les fonds obscurs d'une salle de cinéma, que ce soit d'aller en peignoir dans des salles de vapeur pour observer des gens qui se touchent. Enfin, évidemment, il y a un moment où une partie des policiers qui ont fait ce métier à travers le XXe siècle, il est possible que certains d'entre eux aient été réellement fascinés. Je suis assez d'accord, oui. On voit parfois aussi que ça suscite l'humour, l'hilarité des policiers. On le voit notamment aux annotations en marge des documents. Parfois, on a des petites blagues. Ils vont se moquer de telle personne dont les amours leur paraissent ridicules ou qui se fait tout le temps les conduire. Enfin, la personne qui va relire le rapport va laisser une petite blague pour la personne qui va ensuite le taper. Il peut y avoir aussi des marques de dégoût très fort. Alors, pas forcément dans la plume policière des années 50, par exemple, mais un peu plus tôt encore, oui, il peut y avoir des expressions très dégradantes dans les années 20-30. Et puis, il peut y avoir des expressions tout simplement, sans être particulièrement ordurières, des expressions qui marquent une prise de distance par rapport à la sexualité qu'ils observent. Donc, il y a un mélange de plaisir et de rejet, en fait, ou en tout cas, il y a un plaisir à accumuler des choses qui sont un peu sales ou qui sont un petit peu mal vues par le reste de la société.
Après la Seconde Guerre mondiale, le harcèlement policier s'accroît sur les lieux de drague homosexuelle, croisant à l'occasion la répression des Algériens de France, perçue par la police comme fréquentant ces espaces. Entre 1945 et 1918, près de 10 000 personnes sont condamnées par les lois de Vichy, répertoriées comme délits d'homosexualité dans la statistique judiciaire. À 99%, des hommes, souvent mariés et pères de famille. En plus de cela, le nombre d'hommes condamnés pour outrage public à la pudeur homosexuelle serait d'environ 50 000, estime Régis Lagdenhoffen. La majorité des condamnations se traduit par de la prison ferme, avec des peines de 3 mois à 1 an dans plus de 50% des cas, voire de 1 an à 3 ans dans 20% des cas. Disposant de moins de ressources pour se défendre face à la justice, les hommes des classes populaires feront face aux peines les plus lourdes. Ces condamnations auront des conséquences parfois tragiques sur la vie des hommes concernés.
En fait, les conséquences, elles sont différentes à Paris qu'ailleurs en France. Et donc, Paris, c'est une grande ville de plus de 2 millions d'habitants. Mais si on se place dans le reste de la France, par exemple, en faisant une analyse de journaux tels que le Républicain Lorrain, par exemple, donc il va y avoir marqué « Monsieur Trucmuche, 27 ans, a comparu aujourd'hui pour outrage public à la pudeur et délit d'homosexualité parce qu'il s'est livré à des actes infâmes et a été dénoncé par ses voisins. » Alors qu'il avait été vu en flagrant délit, les COP d'une peine de 4 mois. Donc quand on est dans des petits villages, et il y a quand même 36 000 communes en France, et ben, les personnes, je ne dirais pas qu'elles sont blacklistées, mais ça fait partie des réputations villageoises. Donc ces gens de la campagne, ils devaient aller à la ville pour une raison, je ne sais pas quoi, aller au marché, hop, faisaient un petit tour par le bain de vapeur local ou les toilettes du coin, et pas de chance, se faisaient arrêter. Ben dès lors, leur réputation était compromise de différentes manières, soit parce que ces gens, je dirais pour une bonne moitié, avaient une vie entre guillemets normale, donc étaient mariés et pères de famille. Donc, ben voilà, papa a été condamné pour homosexualité. Faut imaginer que c'est pas forcément sympa, à la fois au niveau de la vie de famille, au niveau de la vie du village ou de la petite ville et de la réputation qu'il peut y avoir. Donc, on le voit bien lorsqu'on regarde les statistiques. Pour la plupart des gens, dans les années 60 ou 70, eh ben, c'était considéré comme une maladie, comme un vice honteux. Donc, forcément, eh ben, une partie de la vie est ruinée, hein.
Quelles vont être les réponses des militants homosexuels de l'époque ? Est-ce que la répression policière fait l'objet de beaucoup de discours dans les productions intellectuelles ?
Dans les années 60, ça met du temps à se mettre en place. Il y a d'un côté ce qu'on appelait le Club Arcadie d'André Baudry, qui était un cercle d'homosexuels qui se retrouvaient dans des espaces, dans des salons. Hein, donc c'était plutôt un monde assez mondain et bourgeois, avec des liens avec la police. Des liens qui leur permettaient d'être un peu tranquilles, de ne pas être trop inquiétés, de pouvoir gérer en fonction de possibles arrestations. Et Michael Tempête, cofondateur de la revue Trou Noir, qui est une revue de la dissidence sexuelle. Donc il y avait une production un peu de texte, et André Baudry essayait de lutter à sa façon contre cet sous-amendement du fléau social. Mais c'est plutôt dans les années 70, avec l'irruption du FAR, le Front Homosexuel d'Action Révolutionnaire, qui va politiser cette militance contre les forces de l'ordre. Politiser, ça veut dire l'amener dans l'espace public, la rue, les manifestations, les assemblées générales. Au même moment, il y avait quand même, je pense, deux personnalités importantes qui étaient Michel Foucault et Guy Ockenheim. Michel Foucault n'était pas au phare, mais Guy Ockenheim, oui, une figure importante. Les deux ont parlé justement du rôle de la police dans la gestion de la sexualité. Et aussi parce que Guy Ockenheim avec le phare était aussi exposé à la répression policière par le militantisme. Les assemblées générales du phare se terminent par l'évacuation par les forces policières. C'est aussi le croisement de différentes luttes pour les ouvriers, pour les immigrés algériens, etc. Ce qui était intéressant, c'est que dans les premières recherches sur la répression de l'homosexualité en France, Daniel Guérin, donc, qui était un militant important antifasciste, anti-impérialiste, et qui était à participer au phare, il avait 60 ans quand il arrivait au phare, et il a mené les premières recherches militantes sur la répression de l'homosexualité, dans lesquelles ce qui est ressorti, c'était qu'il y avait une grande présence des ouvriers et des immigrés dans les arrestations de la répression anti-homosexuelle de l'époque. Il va chercher ça dans les statistiques des ministères à l'époque. Et lui, qui est un militant qui a soutenu la libération en Algérie, en Indochine aussi, autre colonie française, qui est allé aux États-Unis pour rencontrer les premiers mouvements de libération noire américaine, afro-américaine aux États-Unis avant les Black Panthers, donc on est dans les années 50. Il a toujours été confronté à la question de la répression policière pour tous ces groupes politiques. Et il a aussi été intimement dans sa vie, de manière plus isolée, parce qu'il ne les partageait pas de manière collective à l'époque, dans son homosexualité à lui. Donc il était témoin de tout ça en même temps, au carrefour de toutes ces répressions policières. Et je pense que le moment des années 70, de 68 et de 70, ça a été quand même l'explosion de ces différentes oppressions. Et le but, un des buts quand même du phare, ça a été aussi de politiser la rencontre entre ces différentes oppressions.
Michel Foucault, quelle est pour vous la fonction d'un juge dans notre société ?
À quoi ils servent ? Si j'étais méchant, bon, moi je ne le suis pas, alors je le dirais tout de même, ils servent au fond à permettre à la police de fonctionner. La justice, elle n'est pas faite pour autre chose que d'enregistrer au niveau officiel, au niveau légal, au niveau rituel aussi, ces contrôles qui sont essentiellement des contrôles de normalisation et qui sont assurés par la police. La justice est au service de la police, historiquement et de fait institutionnellement.
On est au cinquième étage de la bibliothèque municipale de Lyon, à l'étage des fonds anciens. Donc autour de nous, il y a plein de très vieux livres avec des couvertures visiblement très anciennes. Est-ce que vous pouvez vous présenter en une phrase ?
Michel Chaumarin, je me considère et je me revendique comme un activiste gay.
Et quel âge vous avez, Michel ?
On ne demande pas son âge aux vieilles filles.
Très bien.
Moi, je viens d'avoir 75 ans.
Pourquoi on se retrouve ici aujourd'hui ? Qu'est-ce qui nous amène à la bibliothèque municipale de Lyon ?
Il y a un fonds qui porte mon nom, le fonds Michel Chaumarin, qui englobe des dizaines de milliers de documents, que ce soit des manuscrits, des estampes, des périodiques, etc., etc., sur ce qu'on appelle maintenant LGBT+.
J'ai sous les yeux un gros dossier noir.
Gros.
Et à l'intérieur duquel il y a une chemise en papier couleur saumon, avec écrit dessus Lyon prostitution 75-77.
Pour moi, la révolte des prostituées à Lyon en juin 75, pour moi, c'est fondateur, puisque les prostituées à l'époque occupent l'église de Saint-Nizier à Lyon, parce qu'elles en auront le bol d'être taxées pour un collège sur la voie publique. Et alors moi, j'interviens à ce moment-là, parce que personne ne sait que les PD de l'époque, ils étaient taxés aussi pour un collège sur la voie publique. Pour moi, PD pute, c'est le même combat. Ça, c'est des photos que j'ai prises en juin 75. Là, on ne le voit pas très bien.
La répression s'abat également sur les homosexuels, qui paient également des amendes à 160 francs qui sont également pourchassées par la police à Lyon. Nous exigeons la libre disposition de notre corps. Nous sommes de ce fait solidaires de la juste lutte des femmes.
Ah, ça, c'est beau, moi. Nous réclamons la libre disposition de nos corps. À Lyon, comme dans la plupart des villes de France, les lieux de drague homosexuels, c'était le long des fleuves. Et donc à Lyon, tout le long du Rhône et de la Saône, vous aviez ce qu'on appelle des tasses vespasiennes. Et donc, la police nous pourchassait au nom de l'ordre moral.
Mais il y avait parfois des condamnations.
Oui, bien sûr. Oui, oui. Bah oui, puisque racolage sur la voie publique, vous étiez poursuivi. Le vrai problème, c'est que en province, le lendemain, dans le journal, on citait leur nom. On citait leur nom. Et on en a un cas très connu à Lyon, où un clerc de notaire a été arrêté en train de faire des gâteries dans les chiottes, je sais pas où. Et le lendemain, il y a eu une demi-page dans le Progrès de Lyon. Le pauvre clerc notaire a été licencié par son patron, le notaire, et il a fini par se suicider. Donc je sais pas, c'était vraiment très très dur, quoi. Comme on était en marge, hein. D'autre part, je rappelle, on oublie qu'on était des malades mentaux, puisque le déclassement de l'Organisation mondiale de la santé s'est mis plus tard, dans les années 80. Et quand vous êtes pas sûr de vous, bien sûr vous mentez à votre famille, vous mentez à tout le monde. D'ailleurs, vous êtes une victime potentielle pour tous les agresseurs. Donc,
peut-être qu'on peut ouvrir ce dossier. Donc, de nouveau, c'est une pochette en carton noir avec à l'intérieur un dossier couleur saumon. Il est écrit dessus « Affaire du Manhattan, Michel Chaumara inculpé ».
Alors là, maintenant, on est dans l'affaire du Manhattan. Donc, pour ceux qui savent pas, le Manhattan, c'était un bar, c'est un bordel. Un bordel à Paris, rue des Anglais, sur deux niveaux, un rez-de-chaussée qui faisait bar et une cave qui servait de backroom, là où j'étais arrêté en 1977. Et donc, on était là pour s'amuser, jusque la lumière s'éclaire et la police. Alors bon, j'ai été arrêté, on était 9 clients, plus les deux patrons, et nous avons été embarqués avec les monotomains au Quai des Orfèvres. Je ne vais pas revenir sur l'interrogatoire, mais c'était hallucinant, avec la machine à écrire à deux doigts, tac, 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 tout ça dans la nuit à 4h du matin.
On vous accuse de quoi? D'outrage à la pudeur?
Oui, d'outrage public à la pudeur. Une accusation qui est très vaste, justement dans l'affaire du Manhattan. Comment on peut parler d'outrage public à la pudeur alors qu'on est dans un lieu privé, on est entre personnes consentantes? Cette affaire du Manhattan est une affaire très très importante dans l'histoire LGBT, parce que on voit comment la police a organisé la chose pour nous condamner, pour nous stigmatiser, pour voilà. Non, parce que les PD, à l'époque, il fallait pas qu'on les voit, il fallait qu'ils restent chez eux, de toute façon, dans les placards. Et que la police pourchasse les PD dans les parcs, les jardins, pourquoi pas. Mais là, qu'on poursuive les gens à l'intérieur d'un endroit clos, je trouve ça vraiment, c'est inadmissible. C'est pour ça que j'ai fait appel, j'ai été condamné 3 fois, j'ai été condamné en première instance, j'ai fait appel et je suis allé en cassation. Mais en tout cas, ils ont fait ce que je suis devenu et pour rien au monde, je changerai ce que je suis devenu.
Est-ce que vous avez des coupures de presse de l'époque?
Oh, j'en ai comme ça. Oui, c'est un procès qui a été hyper médiatisé. Ça, c'est les différentes procédures. Donc voilà la liste des co-inculpés. Ah, c'est l'article dans Libération.
Alors, affaire du Manhattan, publicité. Donc ça, c'est des publicités de l'établissement.
Oui, mais le visuel, c'est ça. Le dress code, c'était un peu YMCA. Hein.
Il y a écrit le Manhattan, fête ses 16 ans. Et on voit un homme qui a un peu le look typique du ce qu'on appelle le clone gay cuir des années 70. Quoi. Une moustache plutôt baraquée, un perfecto de cuir, des bottes, un jean.
Ouais, moi j'avais même un blouson d'aviateur.
Le Manhattan s'est transformé en leather bar, cuir plus jeans. Venez voir, cette carte donne droit à un verre gratuit, le jeudi 14 octobre 76 seulement. Ouverture 22h à l'aube, consommation à partir de 14 francs.
Ah oui, alors c'est juste avant le... un an avant mon arrestation.
Ouais, exactement.
C'est l'inauguration du voilà.
Quelques mois avant, ouais.
Non, parce que j'avais des chéris, j'en ai eu partout, et j'avais un chéri qui était très introduit, sans jeu de mots, dans les milieux cuir, et voilà, qui deviendra mon chéri, et qui va d'ailleurs mourir du sida plus tard, à Paris. Mais c'est assez émouvant de replonger dans ces archives. Je me rappelais même plus que j'avais l'invitation pour l'ouverture de ce bordel, qui va contribuer à ma gloire.
Michel Chomara, est-ce qu'on peut parler pour vous d'homophobie d'État ?
Ah, tout à fait, puisque c'est moi qui ai trouvé ce terme. Donc, oui, c'était général, c'était structuré, c'était argumenté, c'était les PD, il fallait pas qu'ils occupent l'espace public. Alors, il fallait pas qu'ils occupent l'espace public, mais en même temps, il fallait pas qu'ils occupent l'espace privé. Donc, il fallait qu'ils meurent quelque part, il fallait qu'ils disparaissent.
Et qu'est-ce que vous attendez, vous, comme réparation ?
Surtout une réparation morale, je pense. En France, c'est le plus dur. Parce que le gouvernement, l'État français, entre 42, oui, parce que tout commence en 1942, Vichy. C'est pas un hasard. Jusqu'en 82. Donc pendant 40 ans, le gouvernement français, les autorités ont poursuivi des Français pour homosexualité, avec tout ce que ça provoquait comme désastre, suicide, perte d'emploi, perte de logement, perte tout ce que vous voulez. Et les familles ont éclaté, etc., etc., etc. Donc tout ça, je pense qu'il faut que la France reconnaisse ses erreurs.
Vous parliez tout à l'heure de solidarité entre les minorités parfois. Et quand vous voyez aujourd'hui le mouvement contre les violences policières qui est porté plutôt par des personnes noires, est-ce que vous vous sentez solidaire ?
Moi je suis contre toutes les violences, donc je veux dire, moi c'est pas une couleur de peau, mais c'est vrai que c'est du copier-coller. Je veux dire, quand vous êtes une minorité, vous avez de fait... C'est vrai que les personnes de couleur qui sont ostratisées plus que les autres, moi je connais ça, j'ai connu ça en tant que PD, donc c'est-à-dire c'est le même combat.
Et pourquoi est-ce que c'est important pour vous aujourd'hui de témoigner sur cette histoire ?
Je répète toujours la même phrase, si vous connaissez pas votre histoire, vous êtes appelé à la revivre. Donc ça, et comme je suis quelqu'un plutôt de très pessimiste, surtout pour les jeunes générations, j'ai l'impression que les jeunes générations, elles sont dans le plaisir, dans le ludique. D'ailleurs, je trouve ça bien, finalement. Mais il faut qu'ils fassent attention, parce que quand on voit le montée des différents périls de l'extrême droite en Europe et ailleurs, d'ailleurs, je me dis, faut faire attention.
Et justement, alors, quand vous voyez qu'une partie de la communauté gay vote aujourd'hui pour l'extrême droite, qu'est-ce que ça vous fait à vous ?
C'est le grand frisson. Non, je suis catastrophé, mais une fois de plus, ça prouve une chose, c'est que les PD n'ont aucune culture ni politique ni historique. Ça, c'est hallucinant. Et en plus, quand on connaît le rapport, notamment entre le régime nazi et les homosexuels, je veux dire, la nuit des longs couteaux, Rome et compagnie, on a une espèce de répétition des choses qui est, à mon avis, très inquiétante. Pour moi, c'est très important de répéter, de relater, de transmettre ce que j'ai vécu, parce que je me dis, l'histoire des PD, c'est une tragédie, mais c'est entre Garcia Lorca qui est fusillé, je parle pas des uns et des autres qui se suicident, Skerwald qui meurt tous, dans un dossier, il y avait un article de Bory. Jean-Louis Bory, il écrit un article sur moi dans le matin sur l'affaire du Manhattan, il suicide le lendemain. C'est pour ça que la mort est très très présente, je dirais, dans une vie de BD, quoi. On pense qu'on va gagner, on gagne un truc, et blanc, ça retombe, C'est pour ça que, je sais pas si je suis réaliste, défaitiste, mais je pense qu'une vie de PD, c'est ça. Ce sera toujours ça.
« L'Assemblée nationale a abrogé définitivement aujourd'hui un article du Code pénal discriminatoire pour les homosexuels. Ce texte, en effet, aggravait les peines en cas d'attentat au mœurs commis sur un mineur si ce délit l'était par une personne du même sexe. Il faut savoir que cette disposition remonte au régime de Vichy et que son abrogation faisait partie des engagements électoraux de M. François Mitterrand.
Combien de vies ont été détruites par l'homophobie d'État jusqu'à l'abrogation des lois discriminatoires ? En 1982, suite à l'élection de François Mitterrand, la mobilisation du CUAR, Comité Urgence Anti-Répression Homosexuelle, porte enfin ses fruits. Le 4 août 82, la loi Forni, rapportée par la députée Gisèle Halimi et soutenue par Robert Badinter, mettait fin aux discriminations de Vichy sur l'âge du consentement. Dans les années 90 et 2000, la question homosexuelle s'inverse, le fléau social d'hier devenant progressivement une catégorie de population à protéger. Du moins officiellement. En 2024, le Sénat et l'Assemblée approuvent la loi du sénateur socialiste Hussein Bourgi visant la reconnaissance et la réparation des victimes. Pourtant, ne concernant que les délits dits d'homosexualité, celle-ci exclut les outrages à la pudeur homosexuelle, minimisant ainsi le rôle de l'État dans la répression de l'homosexualité en France. 40 ans après, l'histoire de la criminalisation des pédérastes m'apparaît comme un cas d'école quant à la capacité de l'État à fixer, selon les périodes, son regard sur des catégories de population, à les fabriquer comme déviantes et à produire les délits qu'il réprime ensuite.
En fait, l'histoire des homosexuels comme public de l'État, c'est une histoire très intéressante parce que il y a eu plusieurs retournements significatifs depuis les années 70-80.
Romain Jaouen.
Qui ont progressivement, justement, extrait une partie de la population homosexuelle du regard inquisiteur de l'État, qui en ont même fait un objet potentiellement, enfin, un public à protéger, selon différentes modalités, voire un public qui a acquis une reconnaissance dans l'État à travers l'accès à des institutions civiles. Cependant, on peut pas non plus dire que tous les publics homosexuels et ou queer, LGBT, etc., aient eu le même parcours que ce parcours un peu glorieux qu'on peut retracer de libération des contraintes. Mais c'est vrai que la situation des homosexuels des années 50-60, 40, puis de l'entre-deux-guerres et avant, qui était un vrai petit gibier de police que la police entretenait, surveillait, mettait sur le feu, en fait, constamment, et pas sans rappeler d'autres formes de rapports qu'a la police avec des minorités et ou des publics cibles particuliers, qui sont des rapports toujours plus complexes que ce qu'on en dit généralement dans l'espace public, mais qui n'empêche créer des réalités de sur-surveillance et de sur-attention institutionnelle qui, elles, sont très vraies. Je pense que certains homosexuels des années 40-50 vivaient une fréquence de contrôle policier dans leur lieu de sociabilité, qui passe sans évoquer la fréquence des contrôles policiers, pas forcément suivi d'arrestation, justement, simplement du contrôle policier, que vivent pas mal de publics aussi aujourd'hui en France, selon des critères raciaux, d'âge, etc., etc.
À quel moment vous avez l'impression que le fléau social d'hier devient un sujet respectable, voire qu'il s'agit de protéger contre une nouvelle figure qui est l'homophobe et un nouveau crime qui est l'homophobie ?
Je pense qu'à partir des années 90, ce qui va prendre de la place, c'est le mouvement associatif, par les inter-LGBT, les centres LGBT, les associations de défense, qui vont être investis par le Parti Socialiste. C'est en 2000, il me semble, à la Marche des Fiertés de Paris, la banderole de tête, c'est « L'homophobie est un fléau social ».
Michael Tempête.
Donc il y a une inversion en miroir de la répression des années 60. Ce n'est plus l'homosexualité qui est un fléau social, mais l'homophobie. Et donc, par conséquent, ce qui va être demandé petit à petit, c'est le même type de condamnation qu'on inflige aux homosexuels pour les homophobes. Vu que ce qui va se passer dans les années 60, qui va déboucher avec le fléau social, c'est une aggravation des peines en cas d'homosexualité, donc dans un cas d'attentat à la pudeur ou de détournement de mineurs, ce qui va être demandé pour la condamnation de l'homophobie, c'est précisément une loi qui vient aggraver aussi la peine en cas de connaissance de l'orientation sexuelle de la victime. Donc si c'est un caractère homophobe, la sanction pénale peut être aggravée. Donc ça, c'est fin 90-2000, à partir de 2003-2004, que les débats se lancent et que les premières lois arriveront en France pour réprimer l'homophobie.
Régis Lagdenhoffen, qu'est-ce que vous constatez dans les années récentes de l'évolution des rapports entre les communautés LGBT et l'institution policière?
C'est très compliqué. Les communautés LGBT sont constituées de différentes sous-communautés ou groupes. Et donc, il y a une partie qui considère et a toujours considéré que la police ne peut pas être l'amie des LGBT parce qu'elle incarne l'ordre répressif, l'ordre public, et lorsqu'on est LGBT, ben on appartient plutôt au clan du désordre. Et après, ben il y a une autre partie qui a tendance à considérer que ben la police, je sais pas, peut être utile et nécessaire. Enfin, le problème de cette question, c'est qu'elle renvoie à des débats tellement fondamentaux sur la manière de penser la société. Mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est que à l'intérieur de la police, il y a un mouvement général qui est insufflé par l'existence de policiers et policières LGBT. Et donc, ces derniers existent et luttent aussi pour leur existence avec la position inconfortable qui est la leur. Parce que ces personnes savent parfaitement qu'en général, dans les communautés LGBT, les policiers ne sont pas forcément les personnes préférées, même si elles peuvent être fantasmées. Donc ça, c'est une question. Mais il n'empêche que, et ça c'était aussi une partie du travail qu'on avait réalisé avec notre collègue Jérémy Gauthier, c'était assez passionnant. Parce que les policiers, policières LGBT, avec leur association représentative, eh ben, témoignaient d'un courage singulier. Parce que la hiérarchie, elle était particulièrement opposée à leurs revendications. Donc en fait, eh ben, on avait de l'homophobie qui venait vraiment du haut de l'institution policière. C'était quand même assez phénoménal. Ce qui est phénoménal dans tout ce qui a été arraché par ces militants policiers, policières, LGBT, ça a vraiment été arraché au haut de l'institution. La France est totalement hallucinant. On a mis énormément de temps avant de pouvoir comptabiliser les agressions homophobes ou LGBTphobes. En fait, il n'y avait rien qui était mis en place pour qu'on puisse la comptabiliser. On était un des derniers pays d'Europe. C'est toujours hallucinant, hein. On est à la traîne avec la Turquie et la Russie pour ce genre de choses. Faut quand même en avoir conscience.
500 000 personnes sont attendues cet après-midi dans les rues de Paris pour la traditionnelle Gay Pride, rebaptisée cette année la Marche des Fiertés. Ce matin, c'était l'heure des derniers préparatifs. Reportage de Samassoula, Christian Decarnet.
Et pour la première fois cette année, des professeurs défileront sous leur étiquette professionnelle, tout comme les policiers regroupés au sein de l'association FLAG.
Cette année, on est essentiellement là pour de la visibilité aux yeux de notre administration et également aux yeux du public, pour faire voir que dans la police, il y a effectivement des homosexuels. La police est à l'image de la population qu'elle sert, donc il y a des homosexuels partout, également dans la police.
Lors des marches des fiertés, qui commémorent chaque année les émeutes de Stonewall contre le harcèlement policier, l'association des policiers LGBTI du FLAG est régulièrement chahutée par des militants radicaux. Une partie n'acceptant pas la présence de policiers en uniforme au sein du défilé. Dans plusieurs textes, Trou Noir, Revue de la dissidence sexuelle, rappelle les liens historiquement conflictuels entre les PD et la police et dénonce les tentations policières d'une partie de la communauté gay.
Des policiers homosexuels ont constitué une association qui s'appelle FLAG. Parce que l'institution policière est sujette à beaucoup de comportements homophobes. Donc, il s'agit de défendre d'abord les policiers et les policières LGBT au sein de l'institution policière de toute discrimination ou d'exclusion. Ensuite, ils vont aussi prendre en charge comment est-ce que les plaintes des victimes d'agressions sont reçues par les forces de l'ordre. Parce qu'il y a un gros problème là-dessus, c'est que la majorité des agressions ne débouche pas sur une plainte. C'est leur regret. Et ils vont mettre en place tout un dispositif pour ça, donc, qui consiste à faire des formations au sein de l'école, des écoles policières, former aussi des référents LGBT au sein des commissariats qui seront beaucoup plus disposés à recevoir les plaintes. Et ensuite, c'est faire la promotion d'une application qu'ils ont lancée qui permet de signaler tout comportement homophobe, en ligne comme en réel. Ça, ce sont les trois piliers sur lesquels repose cette association FLAG, qui représente une minorité de la minorité de la minorité au sein de la corporation policière, qui a régulièrement l'aval du gouvernement pour plus de subventions, plus d'écoute, etc.
Pour cette application du FLAG, le principe est d'inviter les gens à se faire le relais un peu de la surveillance et de signaler spatialement des formes de violence homophobe, c'est ça ?
Oui, le principe, c'est si on est en situation d'être victime ou témoin d'une agression homophobe, on ouvre l'application, on la géolocalise, on se définit soit comme victime, soit comme témoin, et on dit ce qu'on vient de voir. Donc ça demande à avoir la police dans la tête. C'est ce qui aujourd'hui permet aussi de poursuivre ce discours de légitimité de la surveillance et de la présence policière dans notre vie quotidienne.
Est-ce que vous avez l'impression que ça a un impact sur les imaginaires politiques des membres de la communauté gay, par exemple ?
Je pense que oui, parce que ce que ça construit, c'est une communauté de la peur, qui serait opposée à une communauté de la haine. Et quand on nous enferme dans cette communauté de la peur, ce qui est demandé ensuite, c'est de traiter cette peur. C'est le sentiment d'insécurité, par exemple. Ce qui est quand même un des arguments importants de la droite et de l'extrême droite aujourd'hui, c'est le sentiment d'insécurité. Et de nous constituer comme ça, comme une communauté de la peur, une communauté de victimes, ça vient désamorcer justement une lecture qu'on pourrait dire plus transversale de la répression du genre et de la sexualité. Toutes les associations aujourd'hui de défense des personnes LGBT ont toutes une demande de prise en charge policière et judiciaire et carcérale. Il y a par contre une absence totale de réflexion sur ce que ça implique d'envoyer quelqu'un en prison. Parce qu'on ne juge jamais une société, on juge des cas particuliers, individuels, qui sont ensuite renvoyés donc en prison. En prison où l'état des prisons actuellement, c'est une ignominie sans nom, surpopulation carcérale, des conditions de détention abominables, pas d'accès aux soins, humiliation reproduite de genre et sexuelle au sein des prisons. Donc on ne voit pas comment est-ce que ça peut déboucher, si ce n'est à satisfaire un programme politique aujourd'hui libéral qui permet de s'imposer face à un homophobe imaginé, parce que c'est un homophobe imaginé qui est en train d'être construit aujourd'hui. C'est l'arriéré, c'est celui qui n'a pas compris, qui n'a pas été éduqué, c'est celui qui fait passer la religion avant sa citoyenneté, etc. Voilà, c'est tout ça que je vois comme un angle mort de la solution carcérale qui est adoptée aujourd'hui.
Bah, c'est toute la question de l'homonationalisme.
Jacques Boilhem, auteur.
L'homonationalisme, c'est un concept qui est né avec Jasbir Kepoir à la suite de 2001 et qui s'intéressait quand même plutôt de base aux projections de valeurs occidentales sur d'autres pays et donc plutôt sur l'impérialisme occidental en réalité. Et aujourd'hui, ce qu'on voit, avec notamment la façon dont ce terme a évolué, c'est qu'on peut l'utiliser en contexte, on va dire, interne à un pays, dans la mesure où on a la résurgence d'une forme de pouvoir racial à l'intérieur des frontières d'un seul pays. Et ce pouvoir racial, une de ses plus fortes manifestations, c'est le contrôle des corps dans l'espace public, le contrôle de la liberté de se mouvoir dans l'espace public. On pense assez aisément aux violences policières, on pense assez aisément au nombre de morts d'arabes, de jeunes arabes, hommes souvent morts aux mains de la police. On pense récemment à Naël. Ces violences dans l'espace public, elles vont aujourd'hui quand même trouver une forme de justification dans aussi, on va dire, un maintien de l'ordre en faveur de supposément certaines catégories qui seraient en danger dans l'espace public. Notamment les femmes, notamment les personnes LGBT. Et du coup, il y a ce discours qui se développe de dire, en quelque sorte, le renforcement policier, le renforcement des contrôles policiers dans la rue, c'est une manière de protéger les minorités LGBT. Sans trop s'interroger aussi sur qui est visé, finalement, parce qu'on a cette manière d'être assez aveugle à la réalité raciale de qui est visé par ces violences dans la rue en France. On le sait, mais on le dit pas, et on s'interroge encore moins sur les gens qui sont à la rencontre des deux, qui sont arabes, visés par les violences policières, mais aussi LGBT, et aussi en danger pour d'autres raisons, aussi dans la rue, mais qui vivent les deux. On va avoir tendance à s'interroger sur ces gens-là uniquement quand on part dans une sorte de dynamique de sauvetage de ces gens-là. On va dire qu'il va falloir les sauver de la violence de leur communauté, de la violence finalement des leurs. Et finalement, on arrive assez aisément à voir où se situe le problème.
Et Jacques Boilhem, pourquoi, selon vous, ça heurte une partie de la communauté LGBT? La présence policière à la Pride, qu'est-ce qui pose problème à une partie des gens qui participent à ces Prides?
Je pense qu'il y a tout un tas de raisons. Il y a la raison pour laquelle, moi, je peux parler, qui est plus évidente, qui est celle des violences policières qu'on connaît quand on a une personne racisée dans l'espace public. Et du coup, on a un peu du mal avec l'idée qu'on puisse voir les personnes qui nous violentent pour une autre partie de notre identité, qui arrivent dans nos luttes clamé qu'elle viendrait nous défendre. Et plus largement, après, il y a quand même plutôt, enfin, c'est de l'affichage en réalité, quand même souvent. Si on va demain signaler même une agression homophobe, je suis peu certain de la réception qu'on aura dans les commissariats. Et au demeurant, il y a quand même toute une partie de la communauté qui est dans des situations assez précaires. On a des personnes qui sont sans papier, on a des personnes qui font du travail du sexe, les personnes qui sont à la rencontre des deux, et qui aujourd'hui ne sont pas nécessairement exemptes de toute violence de la part de l'institution policière non plus.
Réprimer son désir policier et chercher des horizons d'émancipation plus vastes que la policiarisation croissante du monde. Dès 1975, dans un texte évoquant la mort de Pasolini, Guy Hockenghem, avec son sens de la provocation habituelle, nous mettait en garde contre la possible bascule sécuritaire de certaines revendications homosexuelles. Comment alors articuler le souhait légitime d'échapper aux violences homophobes et le refus de considérer police et prison comme seule solution à l'homophobie au détriment potentiel d'autres populations subalternes? Comment imaginer des alternatives à la seule issue répressive? En attendant de trouver des réponses, j'ai retrouvé le collectif La Théière de Lille qui prépare un atelier d'autodéfense adressé spécifiquement au PD.
Est-ce qu'il y a encore des choses à rajouter ou est-ce qu'on passe au point 2 sur les ateliers d'autodéfense PD? Point 2, 2, point, 2, point, point, 2,
Moi, je veux bien savoir à quoi ça sert un atelier d'autodéfense à destination des PD et pourquoi les PD ont besoin d'autodéfense.
Dans l'espace public, on n'est pas perçu comme des hommes, on est perçu comme genre des sous-hommes. Enfin, il y a vraiment une façon très, très spécifique en fait, d'être visiblement PD dans l'espace public et de subir l'homophobie. Et je pense que c'est pour ça qu'on a besoin d'ateliers d'autodéfense qui sont spécifiquement penser autour de ça.
Le but, c'est pas d'apprendre à se battre pour casser des gueules, c'est en fait de gagner du temps pour survivre et de savoir en fait s'en sortir parce que face à un monde qui est hostile vis-à-vis de nous. Parce que la spécificité, c'est que la violence qu'on subit, c'est on se fait casser la gueule. Voilà, c'est échapper au meurtre, c'est échapper à la violence physique. Voilà, donc on veut pas casser des gueules, on veut juste désamorcer des situations et tout. Et parfois, ça peut permettre de défouler quand vraiment on pète des plombs, quoi.
Est-ce que c'est une manière de chercher une alternative au recours à la police, par exemple?
La police fait partie des agresseurs, donc oui.
Oui, bah carrément. Enfin, en effet, moi, la police, par exemple, c'est pas du tout un endroit où je me sens safe. Enfin, c'est même plutôt tout l'inverse. C'est marrant parce que j'en reparlais là avec quelqu'un qui est en train de faire un travail sur les noyés de la Dole, qui ont été un ensemble de mecs qui se sont fait assassiner dans la Dole. La Dole, qui est le canal qui longe le parc Vauban. Et moi, je lui ai raconté qu'une fois, je m'étais fait agresser dans ce parc. Bon, pour le coup, par plutôt un mec qui était là pour draguer aussi. Mais et il me disait, ah, mais pourquoi t'as pas été à la police? Et j'étais là, genre, bah, en fait, la police, c'était les premiers à nous traquer à l'intérieur de ce parc. C'est-à-dire que quand on va là-bas pour baiser, en fait, la police peut débarquer à n'importe quel moment avec une espèce d'énorme phare sur le haut de la voiture qui passe carrément à travers les buissons et qui fait en fait flipper tout le monde et qui fait que les gens se cachent un peu plus, mettent un peu plus à l'abri. Alors que c'est un endroit qui est connu comme un lieu de drague gay, PD, et qui est fréquenté pour ça la nuit, et qui du coup pose, à mon avis, problème à absolument personne. Enfin, en tout cas, je vois pas en quoi la police a besoin d'intervenir dans cet espace-là.
J'ai l'impression que quand on appelle la police, l'agression a déjà eu lieu, alors que l'autodéfense, elle permet peut-être de faire en sorte que l'agression n'ait pas lieu ou ait moins lieu.
Ah, justement, c'est souvent l'agression a déjà eu lieu, et il faut apprendre à... Ben, savoir se défendre, même détendre l'atmosphère.
Sur cette autodéfense, c'est se défendre, mais c'est aussi défendre les autres. Et donc, ça prend tout son sens dans ce collectif en non-mixité PD. C'était pas il n'y a pas très longtemps. Trois d'entre nous ici ont dû défendre une personne PD face à des agresseurs a priori hétéros. Et moi, j'avoue que j'en menais vraiment par là, parce qu'ils étaient beaucoup plus nombreux que nous, que la personne qui se faisait agresser se faisait traiter de PD, mais moi je suis là aussi, et donc je le prends aussi comme insulte. J'avais pas envie que la personne se fasse taper, mais j'avais pas envie de me faire taper non plus. Et oui, c'est pas savoir se défendre physiquement, j'ai aucune envie de taper qui que ce soit, mais voilà, comment désamorcer les situations comme ça de violence, qui pour le coup, moi, m'avait fait quand même... m'avait fait peur, quoi, pour la personne, mais pour moi aussi, quoi.
Tu fais écho au caillassage, là, ouais. Quand la bande de jeunes, elle est venue caillasser la copine. Non, c'était pas dessus.
Voilà, on n'est pas non plus des super gros bras tous les trois, donc. Voilà.
Attends, moi,
mais voilà.
Moi, je
ne
veux pas ce qu'on parle chacun pour soi.
Besoin des gros bras, ici.
Pour nous faire des câlins.
De manière concrète, quelles pourraient être les réponses d'un mouvement gay? Quelles pourraient être les alternatives à la police?
J'aurais pas de solution comme ça à proposer. Je pense que par contre, ce serait assez nécessaire de sortir du réflexe policier. Mais c'est très compliqué parce qu'en fait, on est bloqué. On n'a pas vraiment le choix. Si on se fait agresser, si on veut un minimum de reconnaissance d'un préjudice, on est obligé de passer par une plainte. Légalement, on est obligé de passer par une plainte. Ou alors on se démerde tout seul, on va voir un psy et on en parle à nos amis. On a des amis assez solides pour ça. Donc c'est assez compliqué d'envisager une alternative. Je pense qu'il y en a, mais ça supposerait de mettre en question notre propre désir de punition, notre propre désir de réparation, et de mettre ça en réflexion. C'est difficile de proposer de vraies alternatives face à des mastodontes que sont les instances, les institutions étatiques. Il y a, et après il faut aller chercher du côté des personnes qui réfléchissent à la justice transformatrice, réparatrice, etc. Mais il faut aller loin là-dedans. Même ces réflexions-là sont aussi limitées en leurs propres limites, mais c'est au moins des tentatives, je pense, intéressantes.
Est-ce que vous avez l'impression qu'on peut rêver d'un monde sans police ?
Oui, totalement. C'est un rêve, mais c'est aussi une utopie politique en somme. La police, ça nous paraît aujourd'hui comme une évidence. Ça l'a pas toujours été. C'est quand même une institution finalement assez récente qui s'est aussi en large partie construite vis-à-vis des populations nord-africaines. La police nationale, elle s'est créée en réponse en large partie à des enjeux liés aux Algériens de France, aux musulmans de France plus largement, notamment dans les années 40. C'est une institution qui a été créée par Vichy. Donc c'est tout à fait possible d'imaginer un monde sans ce qui aujourd'hui nous apparaît comme une évidence, mais en fait qui ne l'est absolument pas.
Merci à Régis Lacdenhoffen, Romain Jaouen, Michael Tempête, Michel Chomara, Jacques Boilem et au collectif La Théière. Merci également aux archives de Paris et à la bibliothèque municipale de Lyon-Pardieu. Lecture, Martin Dust. Prise de son, Gilles Gallinaro et Guillaume Ledu.
Mixage, Éric Boisset.
Documentation, Anne-Lise Signoret. Archivina, Pierre Pinault. Chargée de programme, Marie-Vonne Abolivier et Anaï Morales. Coordination, Johanna Bedeau. PD, Réinventer le monde, et PD et la police, un documentaire de Camille Desombres réalisé par Gilles Blanchard. À suivre, PD, Réinventer le monde, des mémoires révolutionnaires perdues. Les pages web, c'est sur franceculture.fr et le podcast sur l'appli Radio France.